La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août, en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Rebonsoir à toutes et à tous. 19h passé de 9 minutes, on est ravis d'être avec vous sur Territoria et sur Radio Immo. Toujours accompagné de notre fidèle complice du jour, journaliste reporter, Élodie Rabel. Ça va, Élodie, toujours ?
Toujours, toujours. Il est 19h, il fait beau.
On a eu de la chance, voilà, dans un magnifique hippodrome, je le rappelle, qui a été totalement rénové avec beaucoup de goût. Et on est ravis aussi, puisqu'on a eu un temps assez clément aujourd'hui. Voilà, on va parler de numérique, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Et vous pouvez bien sûr réagir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, vous retrouvez l'ensemble de vos podcasts préférés sur les agrégateurs de podcasts, iTunes, PodCloud, Deezer, Spotify, nos propres agrégateurs, bien évidemment. On est ravis de recevoir sur le plateau Ramon Fernandez, directeur général délégué chez Orange. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais écoutez, je vais très bien pour les raisons qui ont été dites. Il fait beau, l'endroit est beau, il y a beaucoup de gens, il y a de l'enthousiasme, il y a du positif. Donc c'est agréable de faire sa rentrée ici dans ce contexte. C'est une belle initiative, je trouve.
Alors, malgré la pandémie.
Vous avez participé aujourd'hui, parce que vous savez que c'est une première cette année,
ouais.
Une demi-journée consacrée à la francophonie.
Ouais.
C'est pratiquement 300 millions de personnes qui parlent aujourd'hui le français, c'est pas neutre. Il y a un bassin qui est, voilà, qui fait quasiment la taille en nombre d'habitants de celui des États-Unis, c'est pas rien. Avec une francophonie, on le voit, il le dit, les francophones lorsqu'ils bossent ensemble, les entreprises suisses, belges et autres, même d'Afrique, eh bien renforcent non seulement leurs relations, mais c'est créateur de richesses.
Oui, oui, à peu près plus 65% de chances d'aboutir à des négociations qui se passent bien selon une étude de l'OIF.
Alors, est-ce que Orange défend aussi la francophonie ?
Orange, d'abord, on est présent dans 16 pays qui sont membres de l'OIF en tant que coopérateur grand public, donc c'est pas mal. Et puis, on est très présent en Afrique et au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'Orange, c'est un groupe de télécom qui a fait le choix de l'Europe et de l'Afrique, il y a 25 ans. Donc on est présent dans 18 pays aujourd'hui en Afrique et au Moyen-Orient. Et on est un opérateur, en fait, qui est européen et africain. Et il n'y a pas beaucoup d'opérateurs de télécom dans le monde qui sont dans cette situation. Et ça, c'est un vrai choix stratégique et dont on est convaincu qu'il va porter le groupe pour les prochaines années. Donc être ici pour parler des enjeux de la francophonie, pour un opérateur comme Orange, c'est très important parce qu'on est convaincu qu'il y a un avenir à être ensemble, il y a des choses à construire ensemble, il y a des communautés d'intérêts. Et puis on vit dans un monde où il y a la grande bagarre entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre,
pour
résumer.
Mais enfin,
bon. Et l'Europe et le monde francophone et l'Afrique et le Moyen-Orient ont une carte à jouer et une place à occuper. Il ne faut pas être pris dans l'étau, il faut trouver sa place et on n'y arrivera que si on met nos forces en commun. Et ça suppose qu'on fasse beaucoup d'efforts, parce qu'on est nombreux, et cet effort, il faut le faire, parce qu'on pourra construire des plateformes qui seront beaucoup plus puissantes.
Et le socle linguistique, ce socle francophone, est-ce que c'est un bon levier pour aller vers de la croissance, de la création de richesses, de réunir ces entreprises, justement? C'est vrai qu'Orange, vous êtes l'illustration même, finalement, d'une entreprise à la fois moderne et anticipant. Est-ce que vous, dans vos pérégrinations, vous le percevez dans les 16 pays sur lesquels vous êtes présent? Vous sentez cette coopération? Est-ce que l'enjeu de la francophonie est un vrai enjeu avec de vrais leviers à venir?
Aujourd'hui, pas assez. Donc moi, je suis assez convaincu qu'on peut développer un certain nombre de services, des contenus aussi, qui vont permettre de mutualiser au sein d'un espace francophone ce qui aura pu être fait initialement pour des Belges, pour des Luxembourgeois, pour des Français, et puis bien sûr pour des Sénégalais, pour des Ivoiriens, pour des Marocains, pour des Tunisiens. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Et je pense que dans le monde qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, il y a une demande de solutions alternatives à, d'un côté, disons, le monde des big tech, des GAFAM américains, avec lesquels on travaille, Hein, on n'est pas du tout en guerre ou en lutte, ce serait complètement dérisoire d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais c'est de la coopétition, comme on dit. Mais il y a ces acteurs GAFAM de l'autre côté, et puis il y a les BATX chinois. Et on a des valeurs, on a une culture, on a des choses à partager. Et donc, étant présent de part et d'autre de la Méditerranée, en tant qu'opérateur global aussi dans le monde pour les entreprises, on a une carte francophone, je crois, qui peut faire partie des cartes. Ce sera évidemment jamais la seule, mais qu'on peut activer pour construire de la croissance, apporter plus de services et puis trouver des gains d'efficacité. Hein, encore une fois, la mutualisation, nous sommes une industrie où les coûts fixes sont très importants. Les investissements sont absolument considérables. Un groupe comme Orange investit plus de 7 milliards d'euros par an. C'est 1 milliard, je le disais tout à l'heure, en Afrique et au Moyen-Orient, chaque année, 1 milliard d'euros. Et les enjeux d'investissement sont considérables. Il faut qu'on puisse amortir aussi
clairement
ces investissements sur des bases plus larges. Et donc, quand on crée, par exemple, un smartphone à 30 euros pour les populations africaines, on va pouvoir le diffuser partout. Quand on va, comme on l'a fait avec la Fondation Orange, traduire les MOOC de la Canadian Academy pour l'ensemble des formations scientifiques, donc on a traduit en français, il y a des gains fantastiques. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Orange, aujourd'hui, vous êtes un opérateur, vous l'avez rappelé, global, et vous êtes intervenu sur la thématique de la souveraineté des données, la souveraineté numérique, et plus largement, on peut parler aussi de la conversion digitale des entreprises ou du processus de digitalisation des entreprises. Vous avez rappelé à juste titre, alors c'est bien, parce qu'on peut se parler sans langue de bois, c'est le principe du média, vous avez parlé des BATX et des GAFAM. La différence entre les BATX et les GAFAM, c'est que les BATX en Chine interdisent tout simplement aux autres d'importer leur technologie chez eux. Donc on voit bien aussi que dans la technologie, c'est la question que je vous pose, ne nous heurtons-nous pas finalement au barrage des gouvernances? C'est le cas de la Chine, par exemple, qui a interdit, par exemple, il n'y a pas Waze, il n'y a pas WhatsApp, les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux chinois. Clairement, la Chine, sans complexe, affiche, tu sais, vous n'entrerez pas dans le territoire chinois. Ce qui n'est pas le cas des GAFAM, ce qui n'est pas le cas des Américains. Est-ce que ça veut dire que dans cette polarité qui s'annonce, pour être très clair, Orange, qui finalement, avec la francophonie, peut être aussi le, entre guillemets, le représentant tech, big tech, de cette francophonie qui pèse plus de 300 millions aujourd'hui de personnes qui parlent le français tous les jours, autant d'entrepreneuriat, une création extraordinaire, une Afrique continentale très dynamique, très créative d'entreprise. Quelle place vous, aujourd'hui, vous placez, comment Orange se définit dans tout cela? Et puis, disons-le, est-ce que parler de souveraineté numérique, c'est un vœu pieux? Est-ce que le combat est déjà définitivement perdu? Est-ce que nous sommes toujours, aujourd'hui, capables d'être souverains, propriétaires de nos propres données, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, je crois que la bataille n'est pas perdue, mais il faut en même temps rester lucide. Et donc, quand on parle de souveraineté numérique, je pense que...
De quoi parle-t-on?
Je pense qu'il faut se dire que c'est à la fois préserver notre indépendance et donc ne pas devenir dépendant des grands acteurs qu'on vient d'évoquer, mais en même temps, ça veut dire être capable de traverser nos frontières nationales. Et donc, la souveraineté, elle ne pourra pas, je pense, dans ce monde, se déployer dans les frontières nationales. Donc, on a un projet européen, c'est l'Union européenne, on met en commun notre souveraineté pour mieux l'exercer. C'est pas toujours facile, parce qu'évidemment, chaque transfert, chaque partage de souveraineté...
Pas au risque de la perdre. Parce que les anti-européens, c'est ce qu'ils disent. Bien sûr. Nous avons vendu notre souveraineté.
C'est ce que disent les anti-européens. Moi, je pense que c'est lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire qu'on exerce beaucoup mieux notre souveraineté si on la met en commun, parce que nous ne sommes plus à l'échelle au sein de nos différents pays. Et donc, les Africains ont fait d'ailleurs des choix tout à fait comparables dans les zones que je connais le mieux. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'UEMOA, la CEMAC ont des commissions, des institutions, des gouvernances qui ressemblent à ce qu'on a mis en place en Europe. Alors on sait bien qu'il faut y travailler, que tout n'est pas parfait, mais ce que je veux dire, c'est que cette souveraineté qu'on cherche à développer dans le domaine numérique, pour qu'on arrive à la construire, il faut être capable de mettre en commun nos forces, de mutualiser. Ça peut être des réseaux, ça peut être des formes de régulation, par exemple un régulateur par pays des régimes d'allocation de spectre, parce que dans les télécoms, vous avez besoin du spectre que vous allez payer. Bon, si c'est dans chaque pays, c'est très très compliqué ensuite de faire de l'interopérabilité à des niveaux régionaux.
Le spectre,
ben, pour la 3G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, à chaque fois, vous faites un chèque à un État qui va vous donner la possibilité d'utiliser un spectre hertzien sur lequel, donc les ondes, sur lesquelles ben, vous allez faire transiter la voix, la donnée. Et ça, c'est pour 10 ans, c'est pour 15 ans. Aux États-Unis, c'est une fois pour toutes.
Hein. D'accord.
En Europe, en Afrique, c'est vous payez à chaque fois pour 10 ans, pour 15 ans, puis après vous repayez parce que ça revient. Voilà. Donc ça, on doit mettre en place des cadres de régulation qui vont permettre au niveau transnational de créer une vraie souveraineté. Et puis après...
Mais est-ce que c'est pas un peu compliqué de construire une véritable souveraineté numérique francophone quand l'espace francophonique est déjà quand même... assez divisé entre les pays riches et les pays pauvres. En France, Orange s'attache à déployer la fibre sur le territoire français, dans les ruralités. En Afrique, on est encore en train de développer la 2G et la 3G. C'est vraiment à deux vitesses.
Alors, oui, en même temps, l'Afrique va plus vite que l'impression que peut-être certains peuvent avoir. Nous, on est présents dans 18 pays en Afrique. Il n'y a qu'un seul pays où la 4G n'est pas encore déployée, c'est la République de Centrafrique, et ça va venir. Donc la 4G est là, et ça va très très vite. Le trafic de données, c'est-à-dire ce qui passe par les réseaux, la 4G, augmente de 40%, 50% par an. Donc c'est fulgurant. L'un des obstacles à la diffusion de ces données, donc du monde de l'Internet mobile, qui est la clé pour l'Afrique pour faire un saut technologique et un saut économique, c'est... la disponibilité des smartphones à des prix abordables. Mmh. Hein, parce qu'en fait, vous avez des réseaux qui se déploient beaucoup aujourd'hui, mais la capacité d'accéder à ces réseaux, elle souffre, un, du coût des smartphones, d'où mon smartphone, le Sanza, à 30 euros, et puis aussi les compétences. Les compétences, parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de capacité à accéder, et ça existe aussi dans les pays avancés. Donc pour faire ça, nous, on déploie de ce qu'on appelle les Orange Digital Center. Ce sont des lieux, des maisons du numérique, en fait, dans lesquelles vous allez trouver une école de code, vous allez trouver ce qu'on appelle les Fab Labs, qui permet de fabriquer des produits numériques, et puis vous avez un incubateur pour les startups.
Orange, vous possède combien de ces maisons-là ?
Aujourd'hui, 8. Aujourd'hui 8, et on en aura dans tous nos pays. Mais je donnais un chiffre tout à l'heure qui est un peu effrayant quand même. Il n'y a que 3% des fonds levés pour accompagner le développement des startups, 3% dans le monde africain francophone.
3%.
Et comment 3%. Vous les... Le reste, c'est les pays anglophones. Pourquoi ? Parce que notamment l'early stage, les business angels, vous en trouvez très 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 peu en Afrique francophone. Donc là aussi, nous on a un
fonds... Mais ils s'y croient pas. Non, parce que vous prenez les pays anglophones, spécialement les Anglais, les fonds anglais et les business angels, les fonds d'investissement, tous qui sont capables de capital développement, devraient, si on est opportuniste, s'intéresser à ces marchés émergents. Quand vous parlez de la fulgurance du trafic qui évolue, vous avez raison, c'est fulgurant. Ils devraient s'y intéresser. Comment ça s'explique, ça ?
Ben parce qu'en fait, dans le chiffre que je cite, il y a un point prépondérant de ce qui se passe au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud et en Égypte.
Vous parlez de stabilité politique ?
Non, de grands pays, de très grandes économies qui font que des grands fonds anglophones ont décidé de s'y intéresser. Donc nous, on a un fonds de corporate venture chez Orange. On a créé un compartiment avec deux parti, peu importe, pour l'Afrique, hein, 50 millions d'euros, c'est un début, c'est pas énorme. Mais enfin, voilà, il faut quand même, là aussi, mettre en commun nos forces. Et cette souveraineté, elle va commencer par les infrastructures de réseau, parce qu'on peut parler de choses très, très sophistiquées. Si vous n'avez pas d'infrastructure télécom, le reste, ce sera de la littérature.
C'est clair.
Et ça, c'est des investissements gigantesques. Vous parliez de fibres. La Banque mondiale a chiffré, par exemple, d'ici 2025, il faudrait déployer 125 000 km de fibres en Afrique. Ça va coûter 50 milliards de dollars. Bon, et on peut multiplier les exemples. Donc, il y a des très gros enjeux d'investissement pour avoir des infrastructures télécoms. Ensuite, il faut développer l'accès et les services numériques. Il faut avoir des écosystèmes locaux avec la capacité d'aider les opérateurs à travailler entre eux. Donc, il faut du multi-acteur, il faut du multi-opérateur. On a créé un backbone ouest-africain, par exemple. Le backbone, c'est ce qui va permettre de relier les différents réseaux nationaux. Jollibee, ça s'appelle. On l'a lancé ça récemment. Ça va réunir 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Plutôt que d'avoir 8 fois un réseau national. Vous faites des économies d'échelle. Ouais. Vous êtes plus efficace.
Hyper ingénieux.
En tout cas, on est africain depuis 25 ans. Donc, on essaye d'agir. Et puis, il faut un cadre réglementaire, politique, fiscal,
législatif,
et stable,
législatif, stable, ben prévisible. Oui. Et là, bon, on a aussi beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Et ça, ça peut être de nature aussi à être un frein, bien évidemment, aux investissements.
Ça peut être un frein parce que si vous investissez des centaines de millions, je vous disais qu'on investit 1 milliard par an en Afrique, il faut pouvoir espérer un retour sur investissement normal. Et aujourd'hui, il y a une surtaxation du secteur télécom en Afrique. Qui est un frein. Le taux moyen d'imposition, toute forme d'impôt confondu, pour les opérateurs telco en Afrique, c'est 64%. Le secteur minier, 46%. Et avec des variations très très importantes selon les pays. Bon, pourquoi ? Parce que le télécom, c'est un secteur formel qui est très facile à taxer.
Oui, et c'est générateur de recettes qui
financent. C'est générateur de recettes, et il faut que les opérateurs telco contribuent. C'est légitime, mais il faut trouver le bon niveau, sinon vous allez les décourager.
Et tous ces freins ne vous font pas perdre votre optimisme ?
Non, parce qu'il y a encore une fois des perspectives de croissance formidables. Aujourd'hui, on a des taux de croissance en Afrique Moyen-Orient, entre 5 et 7% de croissance par an, ce qui est évidemment comparé à ce qu'on peut obtenir en Europe.
Quand vous dites Moyen-Orient, Jordanie,
nous sommes
Liban.
En Jordanie, on n'est pas au Liban.
En Israël ?
On n'est pas en Israël. On est en Jordanie, on est en Égypte, Tunisie. Donc je vais faire un Moyen-Orient qui ne sera pas un Moyen-Orient.
Mais avec disons, un peu d'Afrique du Nord. Quoi.
Avec de l'Afrique du Nord. Ça y a donc Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie. On est en Irak aussi. Ça c'est une situation assez compliquée.
Alors oui, surtout en ce moment. Mais alors, Orange, vous avez aussi cette particularité. Alors on en parle beaucoup. Bien évidemment, c'est que aujourd'hui, Orange a une identité française, on peut le dire.
Orange a une origine française, c'était l'origine. France Télécom, mais Orange, le nom vient du Royaume-Uni d'ailleurs.
Oui, c'est là.
Mais je pense que Orange construit une identité qui est une identité européo-africaine.
D'accord. Mais le socle linguistique, je reviens au socle linguistique. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une identité française à l'origine, même si effectivement Orange, c'est l'acquisition du temps de Michel Bon, me semble-t-il, qui avait cette opération, qui était président d'Orange.
Absolument.
Cette opération qui... Orange défend aujourd'hui le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez différentes solutions. D'ailleurs, je dis à nos auditeurs que Orange a un spectre, comme vous direz, si je peux me permettre une analogie, bien plus large que celui qu'on imagine au niveau des télécoms. Question sur le plan du business. On parle beaucoup aujourd'hui, c'est un peu la dent creuse, la conversion digitale, transformation digitale des entreprises, et notamment des TPE, des PME, où c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet en France, en particulier. Votre point de vue, professionnel que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui on est sur un bon processus, masse critique atteinte, conversion, la messe est dite, tout est bon, ou on a encore beaucoup d'efforts à faire dans notre tissu économique français ?
Non, partout, c'est un chemin qui est un chemin qui va être long. On a vu avec la pandémie et la Covid que ça a été en même temps un accélérateur formidable. Voilà. Probablement gagné du temps un peu sous la contrainte.
Et en même temps, on a vu aussi des inégalités territoriales.
On a subi des freins. Et on a vu des freins. Il y a beaucoup de projets qui ont été remis à plus tard parce que la contrainte financière était là. Et donc, le marché entreprise, pour nous, en 2020, a subi une baisse très importante. Hein. Très importante, parce que vous avez des tas de projets qui ont été différés. Donc, pour Orange, qui est...
Gros impact économique pour Orange ?
Oui, les marges de notre activité des services aux entreprises ont baissé violemment de 18% en 2020.
Ah, quand même.
Oui. Donc la pandémie pour les opérateurs telco n'a pas été une sorte de d'opportunité formidable.
C'est ce qu'on aurait pu imaginer.
Oui, mais
que la réalité digitale, justement, le télétravail, le truc.
Oui, mais la réalité
aller faire le bonheur des entreprises du digital.
Non, la réalité numérique. La réalité est un peu plus compliquée parce que vous avez beaucoup de projets qui ont été remis à plus tard. Mais ça revient maintenant. Donc nous, on a une activité de service aux entreprises qui fait au total 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 40 pour le groupe. Donc c'est très important.
Bien sûr.
13 milliards sur 40.
Et sur les territoires aujourd'hui qui sont très inégaux sur le plan de la connectivité et qui d'ailleurs influent sur la démographie. On l'a vu avec le confinement. Des populations, il y a eu un exode. Alors, on va pas dire, bon, je caricature un peu, c'est pas un exode urbain, mais on a les villes moyennes, vous le savez, ont tiré un peu leur épingle du jeu,
oui,
avec des démographies qui se sont inversées. Intéressant. Mais le processus avait déjà bien démarré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre territoire, les territoires en France, commencent à avoir une certaine, on va dire, relativité et d'égalité sur le plan de la connectivité, qui est fondamentale et qui est même dans la shortlist du choix des usagers lorsqu'ils quittent, par exemple, les villes, les centres-villes.
Oui, et donc si on est sur la France, je pense que le numérique est une opportunité fantastique pour aller un peu à rebours du fameux Paris et le désert français. On déploie de la fibre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on adore se plaindre en France. Hein. Rien ne va jamais. Donc je nous rappelle... Francis Maire, avec qui j'ai travaillé un moment, disait toujours « je nous rappelle ». Donc je nous rappelle que la France est un des pays les plus fibrés du monde et que Orange est le premier opérateur de fibre en Europe. De très, très loin. Très, très loin devant Telefonica, Deutsche Telekom, British Telecom, Telecom Italie, etc. De très loin.
C'est bien de le rappeler.
Oui. Tout ça avec des investissements phénoménaux. On a investi 13 milliards d'euros sur la fibre en France depuis le début du lancement du projet il y a une dizaine d'années. Et vous avez aujourd'hui une couverture du territoire entre donc les zones qui nous occupent, dont on parle tout de suite ensemble, c'est la zone dite RIP, la zone la moins dense, où vous avez des acteurs qui tous ensemble contribuent à fibrer le territoire. Donc aujourd'hui, vous avez une très bonne couverture du réseau, même si on sait qu'il y a des difficultés ici et là et que sur le réseau cuivre, on a souvent aussi des débats. Et c'est un des enjeux pour un opérateur comme Orange d'ailleurs, d'arriver à la fois à maintenir en parfait état de fonctionnement un réseau historique qui a 50-60 ans, et on y consacre 500 millions d'euros par an rien que pour entretenir ce réseau, et puis en même temps vous déployez à marche forcée un réseau fibre qui va couvrir l'ensemble du territoire d'ici 2 à 3 ans. Donc c'est un effort absolument phénoménal.
C'est clair. Dernière question, Élodie.
Quels seraient vos chantiers prioritaires pour on va dire la saison, je parle pratiquement en année scolaire, hein. C'est de bon aloi, on est bientôt en septembre 2020-2021. Le plus grand enjeu.
Pour le groupe Orange ?
Mm-hmm.
Je dirais continuer à assurer la qualité de service pour les clients, d'abord, dans un environnement qui est quand même très chahuté, où il va falloir trouver des modes de travail qui se mettent en place avec une pandémie qui n'est pas encore derrière nous.
C'est clair.
Donc ça, c'est tout un chantier à la fois opérationnel et de fonctionnement collectif, très important. Continuer la transformation, bien sûr. Accompagner nos clients, grand public et entreprises. Parce que, comme on vient de le dire, le groupe Orange est un groupe qui est très impliqué auprès de clients qui sont de toutes sortes. Le grand public, les entreprises et ce qu'on appelle le wholesale, hein, c'est-à-dire le marché de gros. Nous avons beaucoup de petits opérateurs qui se sourcent chez nous et qui ensuite vendent leurs services auprès de leurs clients. Et ça, c'est un service qu'on leur doit et qu'on doit à l'ensemble de nos clients, même s'ils transitent par d'autres. Donc, voilà, je dirais gérer cette évolution, déployer les réseaux partout, parce que c'est vraiment la priorité, et puis offrir des services innovants, continuer à déployer un certain nombre d'initiatives, accompagner l'écosystème. On a parlé des startups tout à l'heure, hein, le corporate venture, c'est aussi ce qui permet d'aider d'autres à émerger et à se nourrir, disons, dans un partenariat entre les grands groupes et puis ben, les PME, les ETI ou les entreprises naissantes.
Et quels territoires en priorité ?
La vingtaine de territoires en Afrique et au Moyen-Orient qui sont les nôtres aujourd'hui, les 7 pays européens qui sont les nôtres. On a 220 millions de clients quand même dans le monde qu'on sert aujourd'hui au quotidien. Donc ça, c'est la priorité. Et puis s'il y a des opportunités de développement, de croissance externe, bien sûr, on les saisira. Le groupe est un groupe qui a un bilan très solide et qui regarde l'avenir avec optimisme.
Un pays où vous n'êtes pas encore et où vous aimeriez vous implanter ?
Ou des projets en cours ?
Il y a des projets. On est en train de clôturer une opération d'acquisition en Roumanie qui va permettre de compléter notre présence. On est en francophonie ici, on est en train de pitcher pour l'acquisition d'un acteur en Wallonie, donc en Belgique, où nous y sommes déjà. Et puis en Afrique, il y a de nouveaux pays qui ont décidé d'ouvrir leur marché. Il y a l'Éthiopie, hein, qui est un des derniers monopoles au monde. On va voir s'il y a un business case, comme on dit.
Ok, c'est intéressant, on s'appelle Radio Immo et votre groupe est présidé par un ancien de l'immobilier d'ailleurs. C'est Stéphane Richard,
absolument,
qui était l'un des cofondateurs du groupe Nexity,
tout
par
à fait.
Exemple. Voilà, qu'on salue bien aussi. Merci beaucoup, Ramon Fernandez.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes directeur général délégué chez Orange. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'ai tout compris. C'est parfait, parce que vous savez, dans la tech, des fois, il y a beaucoup d'entre-soi ou des termes intéressants. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Et je me permettrai, si vous voulez bien, de vous réinviter sur des débats, justement, sur cette souveraineté numérique, qui est un peu la dent creuse en ce moment, et qui fait écho à beaucoup de choses. Et justement, mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutaient, quand on parle de souveraineté numérique, vous l'avez rappelé, de quoi parle-t-on ? Et c'est vraiment le sujet du jour. Merci, Ramon Fernandez. On vous souhaite une belle soirée. Élodie, je crois que tout à l'heure, nous avons encore une dernière interview pour cette REF. Avec le monde de la santé, me semble-t-il.
Pharma 5 qui sera avec nous.
Voilà, Pharma 5 avec nous, ce sera notre dernière intervention du jour. On est ravis d'être avec vous. N'oubliez pas le replay, les podcasts disponibles, comme d'hab, sur l'ensemble des applications et des agrégations de podcasts. À très vite.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming. We'll be right back.